Il est 19h30, temps universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous et à toutes. Le Monde Aujourd'hui, édition du jeudi 5 juin. Idrissa Seroudia et Timothée Donangmaï en votre compagnie. Au sommaire ce soir...
Nouvelles attaques de Boko Haram dans le nord du Nigeria. On compte des centaines de morts.
Conflit du Mali, Alger reçoit les groupes armés du nord malien pour préparer de futures négociations avec Bamako.
À Brazzaville, Mathias Tsidon, un opposant au régime, interdit de quitter le pays.
Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais reçu une notification d'une décision quelconque, mais c'est une situation de fait. À voie de fait, en décembre, on m'interdit de sortir, il n'y a aucun acte judiciaire, il n'y a rien du tout.
Fin de la réunion du G7 à Bruxelles, l'Ukraine a été au centre des débats. Nous aurons aussi les sports et la musique en fin d'émission pour l'instant, le journal.
Dans le nord-est du Nigeria, de nouvelles attaques contre des villages ont fait des centaines de morts. Boko Haram est toujours désigné du doigt, Bagassi Koura.
Selon des témoins, des hommes armés ont attaqué au moins 3 villages lundi et mardi dans la région de Gwoza, dans l'état de Borno, fief du groupe islamiste radical. Il a fallu 2 jours pour que des survivants arrivent à Maïdougouri, la capitale de l'état, pour signaler ces attaques. Le réseau téléphonique est très pauvre dans cette zone et les conditions de voyage sont extrêmement dangereuses. Selon ces témoins, les assaillants habillés en tenue militaire ont ouvert le feu sur les villageois et ont brûlé des maisons. Boko Haram aurait même hissé son drapeau dans plusieurs villages. Par ailleurs, à Madagali, dans l'état voisin d'Adamawa, l'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique a indiqué que des membres présumés de Boko Haram ont incendié un bâtiment public et une église. Et selon une autorité locale, le personnel de sécurité a fui la région.
Début ce jeudi à Alger, des consultations exploratoires avec les groupes armés du nord malien. Une rencontre qui intervient après le cessez-le-feu du 23 mai dernier, suite aux affrontements de Kidal. Les détails, Nicolas Pinault.
Oui, l'Algérie revient au devant de la scène en accueillant les 3 groupes rebelles, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, le Haut Conseil pour l'Unité de l'Azawad et le Mouvement Arabe de l'Azawad. Alger affirme vouloir accélérer les préparatifs du dialogue intermalien inclusif. Déjà en janvier dernier, les Algériens avaient organisé un premier round de pourparlers pour rapprocher les points de vue entre ces différents groupes. Près d'un an après l'élection d'Ibrahim Boubacar Keïta, c'est toujours l'impasse entre les rebelles et le pouvoir malien. Pourtant, des négociations devaient s'ouvrir 2 mois après son arrivée au pouvoir. La débâcle de l'armée malienne à Kidal en mai dernier avait contraint Bamako à décréter un cessez-le-feu unilatéral. Quelques jours plus tard, le Mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, président en exercice de l'Union africaine, avait amené les groupes armés à accepter cette trêve. Cet accord prévoit, entre autres, la reprise immédiate des négociations.
Signalons, Idrissa, que le Mali veut instaurer le service militaire obligatoire. Ce sera pour les hommes et les femmes entre 18 et 35 ans. L'annonce a été faite à l'issue du Conseil des ministres et le texte devrait d'abord être voté à l'Assemblée d'ici la fin de l'année avant d'entrer en vigueur en 2015.
6 personnes, dont 3 enfants, ont été tuées ce jeudi dans un glissement de terrain suite à de fortes pluies dans des bidonvilles à Abidjan. Ces glissements de terrain ont eu lieu dans des quartiers précaires de Mossikro, dans l'ouest d'Abidjan, où les habitants vivent dans des baraquements installés souvent à flanc de colline.
Au Congo-Brazzaville, le leader de l'opposition, Mathias Zon, affirme que les services de sécurité l'ont empêché de prendre l'avion hier soir pour Paris. L'ancien ministre des Finances du président Denis Sassou Nguesso, passé maintenant dans l'opposition, dit n'avoir obtenu aucune explication de la part des autorités congolaises.
On m'a interdit de partir, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais reçu une notification d'une décision quelconque, mais c'est une situation de fait. À voie de fait, en décembre, on m'a interdit de sortir, il n'y a aucun acte judiciaire, il n'y a rien du tout, mais seulement des instructions du chef de l'État à la police qui ne va pas sortir. Alors, c'est une décision donc arbitraire. Ils m'ont dit que je ne sortais pas, j'ai repris mon passeport, je suis à la maison. J'ai informé mon avocat, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai interrogé le ministre de l'Intérieur, qu'est-ce qui n'allait pas? Il dit que son directeur de la police n'est pas là. Alors le ministre qui se réfère à son directeur de la police, vous voyez, c'est avec l'enfer qui on se trouve. Donc moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi, on me retient. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. En 2009, ça fait la même chose. Et maintenant, il recommence. Une sorte de harcèlement. de persécution qui se déroule de l'intérieur.
Mathias Zan, leader de l'opposition qui nous parlait de Brazzaville. Dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins 2 personnes sont mortes lors d'une évasion dans la prison centrale de Bukavu, la capitale du Sud Kivu. 301 prisonniers ont pu s'évader, mais 35 ont été rattrapés et la police recherche les autres.
Rebondissement politique en Libye où 2 gouvernements se disputent la légitimité. Un procureur a déclaré l'élection du nouveau Premier ministre Ahmed Maïtik illégale à la Cour suprême qui devra trancher lundi. Issa Napon.
L'élection d'Ahmed Maïtik a été conduite en violation de la loi selon le procureur. Un officiel du bureau du procureur libyen reconnaît un principe de violation de la Constitution. Les avocats de M. Maïtik ont réfuté l'accusation. Dans une session radio-télévisée, ils ont défendu la légitimité de leurs clients. La Cour suprême va trancher l'affaire lundi. Le Parlement libyen avait élu M. Maïtik à la primature à l'issue d'un vote chaotique contesté par certains parlementaires qui ont invoqué un quorum insuffisant. Encore actif, le Premier ministre sortant, Abdullah Al-Thani, dit attendre la décision de la Haute Cour pour savoir s'il devrait passer la main. Cette bruit politique s'ajoute à une crise sans fin depuis la chute de Gaddafi, ponctuée par de violents affrontements entre milices rivales à travers la Libye.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les dirigeants du G7, le groupe des 7 principaux pays industrialisés, se sont réunis jeudi à Bruxelles pour une deuxième journée consécutive. Pour la deuxième journée consécutive, ils se sont réunis à Bruxelles. Les discussions ont été dominées par l'ingérence de la Russie dans la crise en Ukraine, Camille Grosdidier.
Dans l'après-midi, le président Barack Obama a discuté avec le premier ministre britannique David Cameron avant de dîner à Paris avec François Hollande. Mercredi soir, les dirigeants du G7 ont exhorté Moscou à respecter le résultat de l'élection présidentielle en Ukraine, à cesser les infiltrations de combattants et d'armes dans l'est de l'Ukraine et à retirer complètement ses troupes de la frontière. Dans une déclaration conjointe, ils ont menacé d'intensifier les sanctions ciblées et de mettre en œuvre des mesures restrictives supplémentaires importantes pour imposer des coûts supplémentaires à la Russie au cas où la tournure des événements l'exigerait. Le président russe n'a pas été invité à ce G7, une décision prise après l'annexion de la Crimée en mars par Moscou. Vladimir Poutine a cherché à minimiser ce boycott, mais s'est déclaré disposé à dialoguer avec le président élu de l'Ukraine, Petro Porochenko. Après le G7, le président Obama est attendu demain en Normandie pour les cérémonies marquant le 70e anniversaire du débarquement contre les forces nazies durant la Seconde Guerre mondiale.
Élection présidentielle en Syrie, Bachar al-Assad a remporté une écrasante victoire avec près de 89% des suffrages. Le vote qui s'est déroulé uniquement dans les zones sous contrôle gouvernemental accorde au leader syrien un troisième mandat de 7 ans. Le vote est rejeté par les États-Unis et l'Union européenne.
Au Yémen, des militants présumés d'Al-Qaïda ont attaqué un poste militaire dans le sud du pays, tuant au moins 14 soldats et faisant plusieurs blessés. Au moins 500 militants d'Al-Qaïda ont été tués depuis avril dans le cadre d'une offensive de l'armée yéménite, a déclaré un porte-parole de l'armée. 40 militaires ont péri dans cette campagne.
81 personnes ont été condamnées, dont 9 à la peine de mort, dans le cadre d'une campagne antiterroriste à Xinjiang, dans l'extrême nord-ouest de la Chine. C'est ce que rapportent les médias d'État chinois. Les suspects étaient accusés d'organiser ou de participer à des actes terroristes, des meurtres et des incendies. Par ailleurs, 29 autres personnes ont été arrêtées à Urumqi où un attentat suicide avait fait 39 morts le mois dernier dans un marché public.
Au Canada, la police montée de la province orientale du Nouveau-Brunswick a était à la recherche d'un homme accusé d'avoir tué 3 policiers et blessé 2 autres qui sont hors de danger. La fusillade a eu lieu hier dans la ville de Moncton et le suspect a été identifié comme étant Justin ou Justin Bourque, un jeune homme de 24 ans.
Et ici aux États-Unis, un avion des Marines s'est écrasé hier sur un quartier résidentiel du sud de la Californie. Au moins 2 maisons ont été détruites, mais aucune victime n'est signalée. Et en moins d'un mois, c'est le 2e crash d'un appareil du même type ayant décollé de la base aérienne de Yuma en Arizona.
Voilà pour le journal. 18h40, temps 19h40, temps universel. 15h40 ici à Washington. Idrissa Seduya et Timothée de Maïmaï en votre compagnie. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique.
Les faux médicaments constituent un fléau de santé publique au Togo. Des initiatives sont mises en œuvre pour le combattre. En 3 jours, à la fin mai, les autorités togolaises ont procédé à la saisie de plus de 9 tonnes de produits pharmaceutiques contrefaits. De Lomé, le reportage de notre correspondante Kay Lawson.
Le marché du médicament au Togo est inondé par des produits contrefaits, comme c'est le cas dans une dizaine de pays de la sous-région ouest africaine. C'est le constat fait par l'Organisation internationale de la police criminelle, OIPC. Ainsi, à l'issue d'une réunion des experts tenue à Cotonou en mars 2014, une opération de saisie de faux médicaments a été planifiée. Elle a été menée les 27, 28 et 29 mai dernier. Au Togo, seules 5 villes ont été ratissées. Colonel Yak Damhan, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, fait le bilan de l'opération au Togo.
Le bilan s'élève à 9 tonnes 123 kilos de médicaments contrefaits saisis, d'une valeur de 200 000 dollars américains, ou soit 100 millions de francs CFA. Donc, à l'issue de ces opérations, il y a 6 personnes qui ont été interpellées. Et ces 6 personnes doivent faire l'objet d'une procédure et présenter au juge. Malheureusement, c'est des produits qui, au lieu de guérir, aggravent la situation de nos parents malades.
En marge de cette opération ponctuelle entre octobre 2013 et mai 2014, au total 20 tonnes de produits pharmaceutiques non conformes ont été retirées de la circulation. Docteur Assi Mamessile, directrice de la centrale d'achat des médicaments essentiels et génériques Kameg Togo, fait la clarification entre un produit pharmaceutique contrefait et un médicament générique.
Un médicament générique est une copie d'un original qui est de bonne qualité parce que fabriqué suivant des normes bien précises et contrôlées, mais beaucoup plus accessible financièrement à la population. Un médicament contrefait, il s'agit d'un médicament qui est sorti du circuit licite et le médicament se retrouve dans des conditions où il est impossible de savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il contient, est-ce qu'il va réellement guérir celui qui va le prendre.
Tout en revenant sur la nuance entre médicaments génériques et celui dit de rue, le président de l'Ordre national des pharmaciens du Togo évoque d'abord l'un des objectifs de son organisation, Dr Innocent Koundé Peto.
Le médicament générique n'est pas un médicament qui doit être à la rue. Le médicament générique est un médicament comme tout autre qui doit rester dans le circuit réglementaire. Et c'est ce circuit qui garantit la qualité.
Les catégories de médicaments saisis lors de ces 3 jours d'opération sont entre autres des antalgiques, des anti-inflammatoires, des anti-anémiques, des antipaludiques, des antihistaminiques, des antibiotiques, des antiparasitaires, les multivitamines et les aphrodisiaques. La campagne a été menée simultanément au Bénin, au Ghana, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry, au Mali, au Niger, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Togo. Kay Lawson, Lomé pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
Journée mondiale de l'environnement. Au Sénégal, les déchets plastiques sont encore un fléau. On les retrouve partout dans les rues de Dakar. Les Sénégalais sont conscients des dangers, mais les sacs en plastique sont un peu partout. Le reportage de Dianaba Seydouba.
Ils sont unanimes. Les déchets plastiques ont envahi Dakar. ce que dénoncent nos interlocuteurs.
C'est très risqué pour notre environnement.
C'est un phénomène qui pose problème à Dakar.
Ça me désole parce que au niveau décor, c'est très désolant. Ils gardent le décor au niveau de la ville de Dakar.
Les sachets plastiques font partie du quotidien des Sénégalais. Et pourtant, ces sachets sont nocifs à l'environnement, nous dit Idrissa Sané et son ami Massamba Assamb, rencontrés en centre-ville.
C'est pas des déchets qui peuvent être transformés, qui peuvent donc pourrir et disparaître. Donc, ils sont encore là. Donc, c'est un problème d'environnement. Je pense qu'il faut...
Vous en voyez beaucoup à travers les rues de Dakar?
Bien sûr. Vous allez à la boutique, vous achetez n'importe quoi, on vous met dans un chassé. Après utilisation, vous jetez un peu partout. C'est vraiment un désastre à Dakar.
Tu achètes un petit sandwich, tu achètes un petit produit, on te donne toujours des produits comme les sacs plastiques noirs. Et puis, voilà quoi, pour moi, c'est un fléau.
La présence de ces sachets dérange, alors qu'il faut trouver des solutions. Madame Barry Fama pense que le recyclage du plastique peut être une solution.
Bien, on met en place des projets de recyclage, donc des produits plastiques.
Pour Massamba Assamb, c'est à l'État de prendre ses responsabilités pour réguler l'utilisation des sachets plastiques.
Je pense que c'est une mauvaise volonté de l'État. Parce que si l'environnement, le ministère de l'Environnement, il y a un ministère qui prend ça en charge. S'il montre une volonté politique pour imposer l'utilisation des sachets en papier, sera utilisé. Effectivement, moi, par exemple, quand je vais dans les stations, s'ils veulent me donner des sachets en plastique, je préfère prendre mes produits, n'est-ce pas? Parce que les personnes ne sont pas sensibilisées par rapport à l'environnement. Donc les Sénégalais ne sont pas, ils n'ont pas encore ce geste-là avec l'environnement. Parce que tout le monde se dit, ok, si c'est une personne, ça ne veut rien dire. Alors que c'est la somme de ces utilisations-là qui fait que la ville est infestée de produits en plastique.
Au Sénégal, selon des experts de l'environnement, au moins 5 millions de sachets en plastique sont utilisés par jour à travers des usages commerciaux et domestiques. Cela fait à peu près 128 milliards de sachets en plastique utilisés par an dans notre pays. Diana Basseidouba, Dakar, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Sénégal sur Top FM à Dakar et Radio Al-Faïda à Kaola.
6 juin 1944, 6 juin 2014, c'est demain le 70e anniversaire du débarquement en Normandie. La France organise une grande cérémonie de commémoration de cette bataille qui a permis la libération de la France et de l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. 19 chefs d'État seront présents, dont le président Barack Obama. Jean-Roger Bion a joint le professeur Ibader Thiam, historien sénégalais, qui situe l'importance de cet événement et la contribution de l'Afrique.
Depuis que la guerre avait commencé, la France avait connu un certain nombre de revers à cause de la puissance non seulement des forces allemandes, mais également de la puissance de ses alliés, notamment la montée en puissance d'un pays tel que l'Italie, celle également du Japon, et puis la participation d'un certain nombre d'alliés européens qui faisaient partie des pays de l'Axe. Le débarquement a eu un effet extrêmement salvateur dans la mesure où il a sonné le commencement de la fin pour l'Allemagne nazie en remettant en cause sa suprématie après l'échec qui a été enregistré pour tenter de mettre à genoux la Grande-Bretagne avec l'opération visant à essayer de la bombarder de façon extraordinaire afin de briser le moral de ses populations et de pouvoir ainsi disposer d'une France qui serait relativement affaibli. Le débarquement avec l'arrivée des troupes américaines, mais également des troupes canadiennes et d'autres troupes appartenant au monde qui sera plus tard appelé libre par Winston Churchill lui-même vers les années 1947, a eu un effet extrêmement important puisque ça a changé l'orientation de la guerre.
Alors est-ce qu'on peut parler de notre monde d'aujourd'hui en tant qu'héritage de ce débarquement?
Oui, tout à fait, mais il ne faut pas aussi oublier le débarquement qui a eu lieu en Provence et qui a été un débarquement extrêmement important parce que vous savez que De Gaulle, quand il a la paix lancée l'appel du 18 juin 1940, il avait dit, nous avons un empire. Nous n'avons pas perdu la guerre, nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Quand De Gaulle parlait de l'empire, il s'agissait en fait essentiellement de l'empire africain. L'apport de l'Afrique a été important. Le débarquement a permis d'injecter dans la guerre 900 000 hommes, 1 million 170 000 véhicules, 4 millions de tonnes de marchandises et puis une escadrille militaire basée aux Açores qui faisait 600 avions. C'est tout cela qui a permis, en fin de compte, la descente sur Paris, la victoire des alliés au mois d'août et en fin de compte, la capitulation de l'Allemagne.
L'historien et professeur sénégalais Ibader Thiam.
De plus en plus de consommateurs américains ont recours aux centres commerciaux des banlieues et à Internet pour leurs achats. En réaction, beaucoup de villes tentent de booster leur développement économique en investissant dans des programmes visant à attirer de nouveaux commerces et consommateurs. C'est le cas avec les chemises rouges de Silver Spring dans la banlieue de Washington. Les explications de Michel Joseph.
Silver Spring est une localité du Maryland voisin dont le centre-ville est devenu aujourd'hui une véritable fourmilière avec ses dizaines de magasins, restaurants, salles de cinéma et bureaux. Cette revitalisation est due en grande partie à un groupe de travailleurs communautaires appelé les Chemises Rouges. Ils veillent à la propreté et à la sécurité du centre-ville grâce à leurs opérations quotidiennes d'investissement humain.
Nous travaillons de 6h à 12h30, 7 jours sur 7.
Yvette Freeman supervise une équipe de 35 travailleurs de la collectivité locale qui viennent d'horizons divers.
Nous sommes là pour aider ceux qui ont du mal à démarrer leur voiture ou ont oublié leurs clés de contact à l'intérieur. Nous escortons les gens de leur véhicule à leur bureau, ou de leur bureau à leur véhicule, ou bien à la bouche de métro. Nous faisons aussi des travaux d'entretien et enlevons les graffitis.
Don Hugh Alliston, 28 ans, aime chaque aspect de son travail.
Nous réparons les nids des poules et j'aime ça. J'aime aussi aider les piétons à traverser en toute sécurité la rue, ramasser les ordures et détritus pour accueillir les habitants dans un environnement propre et sécurisé.
Son collègue Anthony Myers, lui, aime particulièrement le contact avec le public.
J'aime aider les gens, j'aime être à leur service et leur fournir les infos dont ils ont besoin. C'est ainsi que je me suis fait beaucoup d'amis, des gens de différentes races qui m'ont beaucoup appris sur leurs cultures respectives.
Nombre de propriétaires de magasins comme Looney et Segui avouent qu'ils se sentent en sécurité avec les chemises rouges dans les parages. Elle les considère même comme des membres de sa famille, dit-elle, au sujet de ces fiers ambassadeurs de leur communauté à Silver Spring.
Ici Robert Daguillard. Cette semaine, Washington Forum vous donne un avant-goût de la Coupe du monde de football au Brésil qui aura lieu cette année du 12 juin au 13 juillet. Quelle est votre équipe favorite? Qui a le plus de chances de remporter le tournoi de cette année? Et comment la VOA se prépare-t-elle à couvrir cet événement? Washington Forum, comme toujours, c'est jeudi à 19h TU.
Et maintenant, notre page des sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Timothée.
Coupe du monde de football, J-7 au Brésil.
Et c'est la pagaille à Sao Paulo où se jouera le match d'ouverture Brésil-Croatie. Les employés du métro de la ville ont entamé ce jeudi une grève illimitée à une semaine seulement du coup d'envoi de la compétition. On rappelle Timothée que le métro est la principale voie d'accès à l'Arena Corinthians, le nouveau stade qui accueillera des matchs de cette Coupe du monde.
Des nouvelles de la Côte d'Ivoire, Nicolas ?
Et oui, hier soir, la Côte d'Ivoire a facilement battu le Salvador 2-1. Alors qu'ils avaient besoin d'un véritable match test, les éléphants sont allés presque se balader sur le terrain de Frisco, au Texas, lors de leur dernier match de préparation contre cette équipe du Salvador, qui n'avait clairement pas le niveau pour se mesurer à la Côte d'Ivoire, qui alignait sa formation type à l'exception de Yaya Touré, qui est resté sur le banc.
En revanche, ça ne s'arrange pas pour Ronaldo, Nicolas.
Eh oui, Timothée, touché au genou et à la cuisse gauche, Cristiano Ronaldo ne disputera pas le match de préparation contre le Mexique vendredi à Boston. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui la fédération portugaise.
Et au classement de la FIFA, le Brésil grimpe.
Eh oui, à une semaine du début de la Coupe du Monde de football, le Brésil a grimpé à la troisième place du nouveau classement dévoilé ce jeudi. L'Espagne toujours en tête devant l'Allemagne. Et puis à noter que l'Algérie a pris les commandes au niveau des Africains puisqu'il se positionne maintenant devant la Côte d'Ivoire, respectivement à la 22e et 23e place.
Un mot de tennis, Nicolas, avec le tournoi de Roland-Garros qui se poursuit.
Et oui, sur la terre battue parisienne, Simona Halep s'est qualifiée pour sa première finale en Grand Chelem aux dépens d'Andrea Petkovic, 6-2-7-6. Elle y retrouvera Maria Sharapova qui s'est imposée en 2h27 face à Eugénie Bouchard.
Enfin, ici aux États-Unis, la NBA, la grande finale démarre ce soir.
Et oui, on prend les mêmes et on recommence. Le premier match opposera Miami, champion 2013, face à San Antonio. Et pour les Spurs, Timothée, Tony Parker pourra finalement tenir sa place.
Merci Nicolas.
Bonjour, c'est Nicolas Pinault. Du 12 juin au 13 juillet, retrouvez-moi tous les jours en direct du Brésil pour le journal de la Coupe du Monde. Les résultats, les coulisses et les à côté de cet événement planétaire. Matin et soir, la voix de l'Amérique à l'heure brésilienne pendant un mois. Sans oublier notre site internet www.lavoixdelamérique.com ou notre page Facebook. La Coupe du Monde, évidemment à suivre sur La Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, édition du 5 juin 2014. Nous passons à notre segment musical et Roger Montou est là pour cette partie. Bonsoir Roger.
Salut Tim. Le rappeur Kanye West s'inquiète de plus en plus pour la sécurité et la vie privée de sa fille North, âgée à peine d'un an. Il en veut même un peu à sa femme Kim Kardashian et il la reproche de beaucoup trop l'exposer médiatiquement. Eh ben, c'est quand même la fille d'une star. Kanye West ce soir dans Runway.
And I always find, yeah, I always find something wrong. You've been putting up with much, it's just way too long. I'm so gifted at finding what I don't like the most. So I think it's time for us to have a toast. Let's have a toast for the toast, for the toast, for the toast. Let's have a toast for the toast, for the toast, for the toast. Let's have a toast for the scumbags. Every one of them that I know. Just have a toast for the toast, for the toast, for the toast. Gotta never take work off. Baby, I got a plan. Run away fast as you can. She find pictures in my email. I sent this girl a picture of my, hey. I don't know what it is with females, but I'm not too good at that. See, I could have me a good girl and still be addicted to them hood rats. And I just blame everything on you. At least you know that's what I'm good at. And I always find, yeah, I always find, yeah, I always find something wrong. You've been putting up with my issues just way too long. I'm so gifted at finding what I don't like the most. So I think it's time for us to have a toast. Let's have a toast for the toast, for the toast, for the. Let's have a toast for the toast, for the toast, for the. Let's have a toast for the scumbags. Every one of them that I know. Let's have a toast for the toast, for the toast, for the. Gotta never take work off. Baby, I got a plan. Run away fast as you can. Run away from it, baby. Run away from me, baby. Run away. Then I'm about to get crazy. Why can't she just run away? Baby, I got a plan. Run away as fast as you can.
24/7, 365. She still stays on my mind. I did it. Alright, alright, I admit it. Now pick your next move. You can leave or live with it. It could buy a train with that motherfucker off top off. Split and go where? Back to wearing knockoffs. High, knock it off. Neiman's, shop it off. Let's talk over my ties. Waitress, top it off. Ooh, like vultures wanna fly in your Freddy loafers. You can't blame them. They ain't never seen Versace sofas. Every bag, every blouse, every bracelet comes with a price tag. Baby, face it. You should leave if you can't accept the basics. Plenty of walls in a ball and bugging matrix. Invisibly set, the Rolex is faceless. I'm just young, rich, and tasteless. P.
Never was much of a romantic. I could never take the intimacy. And I know I did damage. Cause the look in your eyes is killing me. I guess you knew an advantage. Cause you could blame me for everything. And I don't know how I'ma manage. If one day you just up and leave.
Voilà, Runaway Kanye West dans la page musicale de Roger Montou, Roger que vous allez retrouver tout à l'heure. Notre ami Yemi Obajimi était à la mise en onde avec Brian McCullough à la technique, Timothée Donangmaï et Idrissa Seydoudia en votre compagnie. Bonne soirée à tous.